Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui sont au micro, pour la Fédération des Bouches-du-Rhône de la Libre-Pensée, Michel Cadouche et Michel Garin, qui est aussi à la régie avec Daniel Bureau, d'Article 25. Et nous remercions encore les producteurs d'Article 25, Daniel et Lucien, de nous avoir confié cette heure radiophonique. La Libre-Pensée, fidèle à sa démarche de s'appuyer sur les faits pour permettre aux citoyens d'effectuer leur propre analyse, soucieuse de comprendre les conditions du combat pour l'émancipation humaine dont elle est partie prenante en défendant l'absolue liberté de conscience, est attachée à déterminer les conditions dans lesquelles le prolétariat combat le capitalisme. Aussi, ce qui se passe au sein d'une des grandes organisations ouvrières, la CGT, ne peut laisser indifférent. C'est ce que nous avons demandé de traiter à Daniel Shapira, membre de l'Observatoire social de la Libre-Pensée, au travers d'un interview que nous avons enregistré.
Bonjour à tous. Mais écoutez, aujourd'hui, nous recevons Daniel Shapira, qui est syndicaliste. Et sans tarder, je vais lui demander s'il veut bien se présenter.
Oui, alors, entre autres, j'ai été pendant près de 25 ans le représentant d'information ouvrière dans les congrès confédéraux de la CGT. Et j'ai assisté à d'autres congrès fédéraux, des cheminots, de la métallurgie, de la FERC. Donc, c'est à ce titre que j'ai été amené à écrire pour les cahiers de l'Observatoire social de la Libre-Pensée.
Très bien. Donc, effectivement, tu as publié dans les cahiers de l'Observatoire de la Libre-Pensée, avec d'autres militants, d'ailleurs, les militants de Solidaires et de Force ouvrière, une analyse sur le mouvement syndical contre la réforme des retraites. Quel bilan tu en tires?
Alors, il est évident que tirer le bilan un an après nécessite de tenir compte de l'actualité. Et depuis 15 jours, on voit ce mouvement des agriculteurs rejoint lundi par des chauffeurs de taxi qui bloquent tous les axes de circulation du pays et qui affole la Macronie au plus haut sommet de l'État. Alors, mon propos n'est pas de parler de ce mouvement des agriculteurs qui veulent vivre dignement de leur travail, qui veulent un revenu garanti, qui ne veulent plus des traités de libre-échange, mais j'évoque ce mouvement parce qu'il permet de revenir sur le mouvement des retraites à la lumière de la crise actuelle. Parce que pendant le mouvement des retraites, on a assisté dans la première phase à des manifestations de près de millions de travailleurs pour le retrait de la réforme des retraites à l'appel de l'intersyndicale, de toutes les confédérations. Et il faut enregistrer que l'unité des confédérations s'était à l'époque faite sur le mot d'ordre de retrait. C'était pas un détail parce que dans des mouvements précédents, le mot d'ordre de retrait qui signifie un choc frontal avec le gouvernement n'était pas et de loin pas une chose évidente puisque ça avait été l'enjeu de discussions âpres pendant des semaines et des semaines. Là, d'emblée, ce mot d'ordre a fait l'unité de tout le monde. Donc, la première phase du mouvement, je dirais jusqu'à début mars, a été marquée par cette mobilisation d'ampleur. Mais il y a eu un tournant en mars. Un tournant en mars parce que, à ce moment-là, tout le monde comprenait bien que la succession de manifestations ne suffisait plus pour faire reculer Macron, qui avait d'ailleurs lui-même dit que seul un blocage du pays pourrait le faire céder. Et là, il y a eu une discussion, je dirais, âpre dans le mouvement syndical, puisqu'en particulier dans la CGT, dès le 2 mars, plusieurs fédérations syndicales, les ports et docks, les cheminots, verre et céramique, mines énergie, notamment, se sont réunis et ont appelé à ce qu'ils ont appelé la grève reconductible jusqu'à satisfaction. Et d'ailleurs, il faut enregistrer que cet appel à un blocage de la production, à un blocage du pays, s'est traduit dans un certain nombre de secteurs, en particulier les méthaniers, les salariés du stockage de gaz, qui ont bloqué et qui ont été pour certains en grève pendant 6 ou 7 semaines d'affilée. Mais contradictoirement à cet appel, les sommets des confédérations, et alors bien sûr au sommet de la CGT avec Martinez et toute une série d'autres fédérations, comme les autres confédérations, se sont de fait opposées à cette mobilisation. On pourrait citer en particulier la Fédération des transports qui contient l'aéroport de Paris, Air France, les transports urbains, les routiers, qui n'a jamais appelé en quoi que ce soit à la grève reconductible. Et ce choc, il s'est retrouvé dans la tenue du congrès confédéral de la CGT fin mars.
Oui. Très bien. Donc, maintenant, je vous propose un intermède musical avec la chanson de Joan Baez, Joe Hill. Michel, s'il te plaît.
Oui, voilà. Cette chanson, Joel Is, c'est Joan Baez qui l'a composée et interprété cette chanson, notamment à Woodstock en 1969. Alors, Joe Hill, il faut le savoir, est une légende du militantisme ouvrier, pionnier du protest song, auquel Woody Guthrie et Bob Dylan doivent tout. Il fut le fer de lance poétique et de l'Industrial Worker of the World, IWW, l'aile gauche du syndicalisme américain, exécuté pour meurtre, puis après un procès controversé. Il est devenu une figure des luttes sociales.
Bien, je propose que nous reprenions l'interview.
Le congrès de la CGT à la suite du mouvement n'a été visiblement pas une affaire très calme. Comment l'analysez-vous ?
Alors, le congrès, c'est ce que j'avais écrit dans les précédents cahiers, je ne vais pas revenir sur tous les détails. Le congrès a été historique parce qu'il a été marqué par ce que j'appellerais une triple défaite de Martinez et de la direction sortante de la Confédération CGT. Triple défaite parce que d'abord le rapport d'activité a été battu, ce qui est un événement jamais vu dans la CGT. Il y a eu dans plein de congrès des votes contradictoires où des fois la direction était mise en minorité sur tel ou tel amendement, mais jamais sur un rapport d'activité qui juge le bilan de l'exercice d'une direction confédérale. Premier aspect, et ensuite, tout le long du congrès, le débat sur le document d'orientation a été marqué par, dans chacun des votes quasiment, une défaite de la direction sortante et un vote majoritaire sur les propositions des congressistes. Et troisième défaite, celle qui était proposée par Martinez, et d'ailleurs la commission exécutive confédérale sortant pour le remplacer, Marie Buisson, a été battue. Alors, cette triple défaite, je dirais, historique, a eu des conséquences. Des conséquences qui se sont traduites notamment par exemple, le fait que quand il y a eu l'assassinat de Naël, et le soulèvement des jeunes dans de nombreux secteurs, de nombreuses villes, il y a eu un appel d'une centaine d'organisations contre la répression violente des jeunes. Et contrairement à ce qui s'était passé en 2005, où les jeunes avaient été isolés du mouvement syndical, là, avec la Confédération CGT, la France Insoumise et une centaine d'organisations, il y a eu à deux reprises des appels contre cette répression policière. C'est une des conséquences indirectes du Congrès confédéral. Il y en a eu d'autres, mais en même temps, contradictoirement, depuis, parce qu'on discute un an après, on peut mesurer des signes, je dirais, contradictoires à ce qui s'est passé au moment du Congrès. Alors, signe contradictoire, d'abord par le fait qu'une décision qui avait été prise dans le Congrès de rompre les discussions en cours avec la FSU et Solidaires, c'était un mandat du Congrès, a été subrepticement remise en cause par le fait que des groupes de travail avec la FSU ont recommencé pour aller vers une fusion. Alors, quoi qu'on pense sur le fond du bien fondé ou non de cette initiative, le fond du problème est une question de démocratie du mandat du Congrès. Et à minima, si des responsables pensaient qu'il faut reprendre ces discussions, il faudrait au moins un comité confédéral national pour acter cette remise en cause du vote du Congrès. Alors, il y a eu ensuite d'autres aspects peut-être un peu inquiétants dans des prises de position de la Confédération CGT, mais le plus important à mon sens, c'est le retour de Bernard Thibault. Parce que sous couvert de préparation des Jeux Olympiques, on voit aujourd'hui Bernard Thibault, l'ancien secrétaire général de la CGT, qui n'avait plus de rapport avec la direction depuis une dizaine d'années, être invité au bureau confédéral, à la CE confédérale, et jouer un rôle très important. On sait que, et c'était de notoriété publique, que les relations entre Martinez et Bernard Thibault n'étaient pas au beau fixe. Et on sait également que Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT, depuis 20 ans, depuis la mobilisation du CPE, était très liée à Bernard Thibault. Mais là, Bernard Thibault revient quasiment comme un chef un peu souterrain de la Confédération CGT, et contradiction avec ce qui s'était passé au Congrès. Et il a multiplié des déclarations et interviews récemment dans la presse qui sont inquiétantes. En particulier, arguant du fait qu'il co-préside depuis 2018 le comité de suivi de la charte sociale des Jeux Olympiques, signé d'ailleurs par toutes les organisations syndicales et patronales, et qu'il est à ce titre au sein du comité d'organisation des Jeux Olympiques, il a multiplié des déclarations, dont dans l'Ouest France, une déclaration qui a heurté beaucoup de militants en déclarant « Si on sait anticiper, il n'y a pas de raison d'avoir des grèves ». Or, cette histoire des Jeux Olympiques va avoir des conséquences importantes pour des millions de salariés et pour le mouvement syndical. Dans cette interview à Ouest France, je me permets de citer, Bernard Thibault écrivait, c'était en décembre, « En 2012, j'étais encore secrétaire général de la CGT. La ville de Paris était candidate à l'accueil des Jeux Olympiques. Les villes concurrentes ne se privaient pas de pointer les risques de troubles sociaux, exprimant leur crainte de désordre et de grève. Pour répondre à ces inquiétudes, j'ai alors élaboré, en lien avec Bertrand Delanoë, qui était alors maire de Paris, une charte sociale. » Or, on voit bien que la motivation décrite par Bernard Thibault, c'est pour éviter les grèves. Et au nom de cette charte sociale, il faudrait que, finalement, il n'y ait pas de grève. Ça s'y pose un sérieux problème, surtout quand on réfléchit à toutes les conséquences aujourd'hui de la manière dont se préparent les Jeux Olympiques. Alors, je peux énumérer en vrac, tout le monde sait à peu près, les bouquinistes sont chassés, les installations sportives pour les jeunes pendant les vacances sont réquisitionnées, les logements étudiants sont réquisitionnés, il y a une explosion des tarifs de l'hôtellerie et du coût immobilier. Les congés des personnels de la ville de Paris, et particulièrement ceux de la propreté de Paris, sont remis en cause. Un décret a remis en cause pour les salariés du commerce les repos hebdomadaires et les congés le dimanche. Et toute une série d'autres salariés vont être impactés, ceux des transports évidemment et plein d'autres. Et finalement, le rôle de Bernard Thibault est de dire « pas de grève ». On apprend par exemple que le syndicat CGT de la RATP vient de déposer un préavis de grève à partir du 5 février jusqu'à fin septembre, compte tenu des conditions de travail et de l'absence de primes et d'augmentation de salaire. Alors, on pourrait dire qu'en cherchant à éviter les grèves et en se portant garant de la bonne tenue des Jeux Olympiques, Bernard Thibault joue son rôle de membre du comité d'organisation des Jeux Olympiques et de président de la charte sociale. Mais la direction confédérale de la CGT, en emboîtant le pas de Bernard Thibault, ne risque-t-elle pas de perdre son âme et d'effacer tout l'acquis du Congrès ? C'est toute la contradiction dans laquelle maintenant va se situer la Confédération CGT.
Oui. Maintenant, bon, une chanson de ce chanteur country que beaucoup connaissent, Johnny Cash. Chanson 60 Tons, je crois.
Oui, voilà, la chanson Sissi Tone. Alors, Sissi Tone est une chanson enregistrée pour la première fois en 1946 hein, par le chanteur-guitariste américain de country Merle Travis et parue l'année suivante sur son album Folk Song of the Hill. Le thème de la chanson est la vie d'un mineur dans une mine de charbon. La reprise par Johnny Cash fait partie de l'album Johnny Cash is Coming to Town, paru en 1987.
People say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bone. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me cause I can't go. I owe my soul to the company store. Born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal and a straw ball set. Well, bless my soul, you load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me cause I can't go. I owe my soul to the company store. Born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble on my middle name. Raised in a canebrake by an old mama line. Ain't no high-toned woman make me walk the line. You load 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Of iron and the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Comment voyez-vous les conséquences de tout cela sur le mouvement syndical ?
Alors, les conséquences sur le mouvement syndical, je dirais, ça dépend de quel point de vue on se place. Dans l'immédiat après-congrès confédéral de la CGT, indiscutablement, les militants d'abord de la CGT ont apprécié comme sous-produit du congrès les premiers pas et les premières déclarations de Sophie Binet et les relations avec les autres organisations syndicales étaient marquées par, disons, une place nouvelle occupée par la Confédération CGT. Mais très vite, dans la foulée du fait que la réforme des retraites est passée, l'intersyndicale s'est rompue. Il y a eu en particulier le 1er décembre dernier une réunion qui a acté la fin de l'intersyndicale. Il y a eu un article dans Le Monde le 24 novembre dernier qui annonçait cette rupture sous le titre « Les organisations de salariés vont mettre en sommeil l'intersyndicale au cœur du mouvement contre la réforme des retraites ». Et dans cet article, on lit des déclarations d'une part de responsables confédéraux, notamment de la CFDT et d'autres, qui disent qu'il n'y a plus aucune base d'unité entre les confédérations, et de l'autre côté, Sophie Binet qui s'arc-boute pour maintenir l'unité des confédérations. Mais la caractéristique commune aux déclarations des uns et des autres, c'est qu'il n'y a pas un mot sur le fond des revendications des salariés. Donc c'est un débat pour ou contre l'unité, indépendamment des revendications. Et alors ce point de vue, disons, de s'arc-bouter sur une unité des confédérations indépendamment de toute revendication, marque un peu les pas de la direction confédérale de la CGT depuis un moment. Il y a eu en décembre l'euro-manifestation à Bruxelles, dont aucun salarié n'a vraiment entendu parler. C'est les euro-manifestations habituelles. Les seuls qui ont cherché à donner de l'importance à cette euro-manifestation, c'est les responsables confédéraux de la CGT, mais tout ça au nom d'une unique raison, l'unité à tout prix au sommet. Et alors, ça s'est traduit récemment par rapport à la loi Darmanin. Et de manière, disons, préoccupante. Il y avait, au mois de décembre, un collectif qui s'était constitué avec une centaine d'organisations, des organisations démocratiques, des collectifs de sans-papiers, des organisations syndicales, des organisations politiques, pour exiger le retrait de la loi Darmanin. Et ces organisations, fin décembre, se mettent d'accord pour appeler à une manifestation le 14 janvier pour le retrait de la loi Darmanin. Et subitement, un appel de 201 personnalités, pour la caractéristique essentielle, c'est qu'il y avait dedans les responsables politiques du PC, du PS, des Verts et toutes les confédérations syndicales, appelés le 21 janvier contre la manifestation du 14. Et pas du tout sur les bases du retrait de la loi Darmanin. Cette décision prise dans le dos de la réunion unitaire a été ressentie comme un coup de poignard et venant en particulier de la Confédération CGT qui avait été initialement dans ces réunions. Et je citerai pour bien indiquer la préoccupation de cette unité à tout prix au sommet, la déclaration des collectifs de sans-papiers qui n'ont pas appelé au 21 janvier et qui ont expliqué en quelques mots pourquoi. Alors, je me permets de citer quelques passages de leur déclaration. Les manifestations du 14 janvier ont été initiées par les collectifs des sans-papiers de la région parisienne et organisées avec 500 organisations, dont beaucoup de structures locales. Ces manifestations du 14 ont montré qu'il existait une riposte unifiant les personnes sans papiers et celles et ceux qui ont des papiers. Ce mouvement s'est levé dès le soir du vote le 19 décembre. Nous, collectifs, nous n'étions pas invités à une réunion organisée par l'organisation Singa, qui était faite dans le dos de cette réunion du 19 décembre. Alors, il est sorti un premier appel demandant au président Macron de ne pas promulguer la loi. Ce texte ne mentionnait aucune des revendications pour lesquelles nous nous battons depuis des années. Et ce texte des collectifs de sans-papiers poursuit en disant « Face à cette carence, nous avons proposé aux organisations regroupées dans les différents réseaux une réunion pour le 22 décembre. À cette réunion ont participé une centaine de personnes représentant une soixantaine d'organisations, de collectifs, d'associations, de syndicats. La date du 14 janvier a fait l'objet d'un consensus majoritaire. Et alors que des centaines d'organisations avaient déjà signé, alors que des initiatives étaient programmées dans des dizaines de villes, nous avons appris avec surprise, le 7 janvier au soir, cet appel de 201 personnalités pour le 21, avec le fait, disent-ils, qu'aucune de nos revendications historiques n'était reprise. Dans cette démarche, nous nous sommes sentis trahis et non respectés. Alors, je pourrais poursuivre la lecture, mais ils ajoutent, les initiateurs de l'appel du 21 ont semé les graines de la division avec celles et ceux qui se battent depuis des mois contre cette loi raciste, et réaffirmant la revendication du retrait de la loi, ils ont donc décidé, en ayant appelé au 14 janvier, à ne pas appeler aux manifestations du 21 janvier. Alors je me suis permis de lire ça, c'est un peu long, mais parce que ça éclaire, si vous voulez, ce que signifie l'acharnement de Sophie Binet et de la nouvelle direction confédérale à privilégier l'unité à tout prix, indépendamment de tout contenu, au sommet, et là, dans le cas présent sur la loi Darmanin, contre le mot d'ordre de retrait. Alors ça a des implications bien au-delà de la loi Darmanin, et ça va faire partie des discussions, à tout le moins dans les prochaines semaines et les prochains mois, dans la CGT.
Merci Daniel. Et quelques mots pour conclure ?
Oui, alors les quelques mots, c'est les rapports du mouvement syndical et de la CGT en particulier avec la France insoumise. On se souvient que dans le mouvement des retraites, il y avait eu des polémiques très virulentes de Martinez contre Mélenchon notamment, lorsqu'au moment du débat à l'Assemblée nationale en février, les dirigeants du PC, du PS, des Verts et tous les chefs de l'intersyndicale disaient qu'il faut absolument voter l'article 7, c'est-à-dire celui prévoyant le passage à 64 ans pour avoir une retraite à taux plein, et à l'inverse, les députés France Insoumise faisaient en sorte et ont fait en sorte que le débat dure le plus longtemps possible, et ce qui fait que la loi n'a pas pu être votée en première lecture à l'Assemblée nationale, ce qui a donné une impulsion pour la mobilisation. Alors, je rappelle ça parce que l'argument invoqué à l'époque contre la France insoumise était l'indépendance des organisations syndicales vis-à-vis des partis politiques. En l'occurrence, il n'y avait pas beaucoup d'indépendance vis-à-vis du PS et du PC. Mais la référence permanente était la charte d'Amiens. Et là, je crois qu'il faut préciser une question. Parce que pendant de nombreuses années, les confédérations syndicales ont mis en avant à juste titre la charte d'Amiens pour préserver leur indépendance syndicale vis-à-vis des dirigeants du PS et du PC, notamment la CFT, après sa rupture avec le PC et le stalinisme, s'est également réclamé de la charte d'Amiens. Mais aujourd'hui, brandir la charte d'Amiens, alors que le poids des dirigeants du PS et du PC sur le mouvement syndical n'est plus du tout le même, n'a qu'une signification contre un lien avec la France insoumise. Et là, il y a un véritable problème. Il y a eu des actions communes entre la CGT et la France insoumise, notamment au moment de l'assassinat du jeune Naël et des prises de position contre la répression policière. Mais depuis, Sophie Binet a multiplié des polémiques avec Mélenchon, un peu comme l'avait fait Martinez. Alors des polémiques de surcroît, il faut le dire, mensongères, puisque Mélenchon avait affirmé que France Insoumise était sans doute celle qui avait le plus de militants dans la CGT, et elle avait prétendu, dans une lettre à Mélenchon, qu'il aurait affirmé que c'était la France Insoumise qui avait fait le congrès de la CGT. Bon, ce qui était évidemment faux, et qui n'avait qu'une signification, établir une sorte de barrière absolue entre la Confédération CGT et la France insoumise. Et ça, c'est dommageable pour toute la suite des développements. Parce que la charte d'Amiens parle de l'indépendance vis-à-vis des partis, mais du patronat et de l'État. Or, aujourd'hui, où la France insoumise affirme une ligne indiscutablement de rupture avec le système de rupture avec Macron, vouloir à tout prix ériger des barrières entre le mouvement syndical et la France insoumise, c'est en fait rompre avec une ligne d'indépendance vis-à-vis de l'État. Et c'est ça, comment dirais-je, manifester une solidarité avec les appareils de la gauche d'avant qui s'accommodent du système. Et donc là, on a un débat qui n'est pas que propre à la CGT, mais qui va concerner tout le mouvement syndical dans la prochaine période. Et c'est là-dessus que je voulais conclure.
Très bien, bien. Après cette interview, je vous propose d'écouter Marianne Faithfull.
Alors, la chanson qu'on va vous présenter, c'est donc Working Class Hero, c'est-à-dire en gros héros de la classe ouvrière. Ce sont des paroles, et normalement paroles et musiques de John Lennon. Cette chanson de John Lennon est sortie en 1970 sur son premier album en solo, John Lennon Plastic Ono Band. La chanson parle des luttes et des difficultés rencontrées par la classe ouvrière. Elle est considérée comme étant l'une de ses chansons les plus virulentes et ouvertement politiques, sur les thèmes de l'aliénation et du statut social, de l'enfance et l'âge adulte. La version présentée est interprétée par Marianne Faithfull. Elle date de 1979.
As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all, till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. But first
first you must learn how to smile as you kill. If you want to live like the folks on the hill. A working class hero is something to be.
Oui, je salue Henri Huil qui vient de nous rejoindre et je vais lui poser tout de suite la question. Il y a Daniel Shapira nous a parlé du mouvement contre la loi asile-immigration et je te laisse la parole là-dessus, Henri.
Oui, bonjour à tout le monde, merci d'être à l'écoute. Alors, comme tout le monde le sait, il y a eu des manifestations en définitive à Marseille en particulier, mais dans d'autres villes du département aussi, les 14 janvier et 21 janvier et 3 février dernièrement. La loi asile-immigration, on y reviendra, a été votée au Parlement par une coalition Macron, Ciotti, Le Pen, Darmanin. Afin de le gouvernement a ainsi manœuvré pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Dans un second temps, Macron a fait appel, presque en même temps en fait, Macron a fait appel au Conseil constitutionnel pour faire retoquer certains articles, les plus visiblement scandaleux, je dirais, afin de donner une apparence, seulement une apparence, de légitimité et de respectabilité à cette loi. Le Conseil constitutionnel a fait son œuvre et on se retrouve avec une loi qui est un tiers censurée, deux tiers validée. Il reste que c'est une loi xénophobe, c'est-à-dire contre les étrangers, contre les immigrés. C'est une loi raciste, on peut dire, et c'est une loi anti-ouvrière. Et donc nous pensons qu'on n'améliore pas une loi raciste. Il n'y a qu'une seule exigence qui peut valoir, c'est celle de l'abrogation de la loi Darmanin-Macron. En effet, cette loi vise à surexploiter, à précariser davantage encore les travailleurs immigrés et leurs familles. Et je dirais presque surtout, elle vise à les désigner comme les responsables boucs émissaires de tous les maux de la société française. C'est une chose qui est, comment dirais-je, profondément criminelle, puisqu'on sait dans l'histoire de ce pays qu'en particulier dans les années 30, mais pas seulement dans les années 30, il y avait des boucs émissaires qui étaient désignés à la population et à la faveur de l'invasion, de l'occupation par le régime nazi et les troupes allemandes, on a vu le régime de Vichy participer, collaborer à, comme il disait à l'époque, chasser les métèques et à poursuivre jusqu'au bout, jusqu'à la mort, la désignation des juifs à l'époque comme les boucs émissaires de tous les maux de la société française. Donc ce n'est pas une chose qui est ignorée par les auteurs de cette loi, et c'est des gens qui, consciemment, mettent en place, touche par touche, et en accélérant maintenant, tout un dispositif, je l'ai dit, xénophobe, raciste. La droite, l'extrême droite, le centre, si quelqu'un d'ailleurs pouvait me dire où il se trouve, le centre, les macronistes, sont en fait les domestiques du capital dans cette affaire. C'est-à-dire les domestiques des grands patrons du CAC 40. Et en fait, ce sont eux, les patrons du CAC 40, qui sont les fauteurs, qui sont la cause de la misère et de la précarité de plus en plus générale dans ce pays. Et d'ailleurs, c'est eux aussi qui sont les causes des guerres. Et donc, c'est une vaste offensive contre tous les travailleurs qui se préparent. Et pour nous, à la Libre Pensée, il est important de souligner que défendre avec les travailleurs immigrés et leurs familles leurs droits, leur garantit les conquêtes sociales dont ils peuvent bénéficier, c'est pas une histoire de dame patronesse où on viendrait aider les travailleurs immigrés, les pauvres. C'est pas ça. C'est que c'est la même classe sociale, qu'on soit travailleur immigré ou qu'on soit travailleur français. C'est les mêmes processus de mise à l'écart de la société qui visent les jeunes travailleurs immigrés comme les jeunes français. Simplement, pour faire passer la division, le gouvernement a choisi de cibler officiellement les immigrés. Mais en réalité, les mesures qui sont prises, elles sont prises contre tout le monde. Et par exemple, on voit ça dans ce qu'ils appellent, puisqu'on parle de la loi immigrée, la loi asile, immigration, c'est asile et immigration, c'est quand la chose n'est pas présente qu'il faut y mettre le nom. C'est pour ça qu'ils ont mis asile, immigration. Le mot asile, c'est là parce que justement, on n'en parle pas. Et donc, c'est le fait d'utiliser les secteurs dits en tension, les secteurs de l'économie en tension. Alors, c'est certaines industries, l'agriculture, qui ont besoin de bras, et qui ont besoin de bras très très mal payés, au nom du fait que le coût du travail étant plus élevé en France qu'ailleurs, il faut abaisser le coût du travail. Et donc, ils cherchent à détruire les droits acquis et garantis de tous les salariés. Parce que s'il est évident qu'on fait venir des gens en situation précaire dans les secteurs en tension qui ont besoin de main-d'œuvre, c'est pas pour que les uns soient payés mal et les autres plus. C'est pour qu'au bout du bout, tout le monde soit payé mal. Ça tombe sous le sens. Et donc, en recourant également, c'est leur deuxième manœuvre, en recourant aux négociations entreprise par entreprise, c'est ce qu'a annoncé Attal dans son discours d'investiture, il cherche à liquider les accords nationaux, les accords de branche, métallurgie, assurance, banque, etc., et à liquider les conventions collectives, et au bout de ça, en finir avec le code du travail. Parce que négociation entreprise par entreprise, ça veut dire que dans chaque entreprise, son salaire minimum, chaque entreprise, c'est sa durée hebdomadaire de travail, chaque entreprise, ses droits et ses garanties. Et bien sûr, tout le monde comprend que le rapport de force au niveau de l'entreprise est beaucoup plus défavorable aux salariés qu'il ne l'est, par exemple, au plan national, au plan du pays tout entier. Le troisième volet, c'est, vous avez remarqué au moment du mouvement des agriculteurs, la conclusion que le gouvernement tire, c'est qu'il faut aller à la simplification. Il faut réduire les normes. Il y a trop de normes dans les entreprises comme dans l'agriculture. Mais c'est vrai pour l'industrie, le commerce, les services, etc. C'est en fait la déréglementation. Supprimer les normes, c'est aller à la déréglementation du droit du travail, des conditions de travail, d'hygiène, de sécurité, etc. Et au nom de la simplification et de la liquidation des normes. Alors que souvent, la revendication des agriculteurs eux-mêmes, je ne parle pas de certains chefs de leurs organisations dites syndicales, mais la revendication des agriculteurs, c'était qu'on impose, bien souvent à juste titre, des normes de production pour la sécurité des consommateurs. Et par contre, on fait rentrer en importation, les fameux accords commerciaux, on fait rentrer des produits qui, eux, venant de certains pays étrangers, de beaucoup de pays étrangers, qui, eux, ne respectent aucune norme de sécurité en matière de durée du travail, en matière de salaire, en matière de pesticides, en matière de tout ce que vous voulez, d'antibiotiques, etc. Et donc, c'est pas le fait de liquider les normes, ça voudrait dire ramener le salaire minimum à ce qu'il est au Brésil et les lois sur les pesticides à ce qu'elles sont au Brésil. Je n'ai rien contre les Brésiliens, mais je prends cet exemple-là pour me faire comprendre. Et donc ça, c'est évidemment tout à fait impossible, mais c'est ce que le gouvernement tente de mettre en place, bien au-delà de l'agriculture, je l'ai dit. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut laisser faire cela? Et cela peut-il continuer, d'ailleurs? Cela doit-il continuer? Et nous pouvons constater qu'actuellement, il y a un moment de latence dans le combat pour l'abrogation de la loi asile-immigration, parce que cette loi a été votée au Parlement dans les conditions que j'ai dit, avec l'extrême droite, Ciotti, Le Pen, Darmanin, Macron, tout ça. Et en même temps, la loi n'a pas été abrogée. Donc, elle tend à passer dans... Mais évidemment, il va y avoir des conséquences à cette chose-là. Et les conséquences, je vais en prendre qu'une seule, pardon, c'est dire que les articles qui ont été censurés, y compris ceux-là, qui ont été retirés par le Conseil constitutionnel, qui ont été, disons, mis à la porte, vont revenir par la fenêtre. Attal a annoncé une réforme de l'aide médicale d'État par voie réglementaire. C'est-à-dire, afin, alors une réforme, on sait ce que ça veut dire dans leur bouche, hein, une réforme, ça veut dire qu'on met par terre les droits, les garanties, les conquêtes sociales. Par voie réglementaire, ça veut dire en contournant le Parlement, sans avoir recours à la loi, de façon à ce que ce soit moins spectaculaire, plus discret que, disons, les coups de pied partent dans l'ombre, dans le noir, et qu'on n'en parle pas trop dans les chaînes de télévision, vu que les patrons du CAC 40 sont les propriétaires de l'essentiel des chaînes d'infos, ou de la totalité des chaînes d'infos, la discrétion est assurée de ce point de vue-là. On nous trouvera tel fait divers, tel événement secondaire, qu'on va monter en épingle pendant des semaines, des jours, des heures, le matin, la nuit, etc. Et donc, forcément, les moments de mobilisation qu'il vient d'y avoir là, de janvier et février, on va les retrouver à ces moments-là, au moment, par exemple, de la réforme, entre guillemets, de l'aide médicale d'État. Il y a gros à parier que grand nombre du corps médical, des infirmières, des soignants, des associations de malades ou de familles de malades monteront au créneau et que ce sera l'occasion de mettre par terre cet édifice. Et donc, voilà, la libre pensée pense que, après, c'est une contribution qu'on soumet au débat. Nous, on ne décide pas de ces choses. C'est les gens qui décident, c'est la population qui décide. Mais il est important, quelles que soient les difficultés, et tout à l'heure, Daniel Chapira fait état d'un nombre de difficultés qui se sont passées dans la mobilisation entre la manifestation du 14 janvier et celle du 21 janvier, l'appel des 201 personnalités. Nous pensons que, quelles que soient les difficultés, les aléas et les vicissitudes, comme on dit, il est important de mettre en avant, de rechercher la jonction entre les associations d'immigrés, le mouvement ouvrier démocratique français, notamment les organisations syndicales, parce que cette unité dans l'action contre les mesures du gouvernement, c'est la voie du succès et qu'il n'y en a pas d'autre. Et ce qu'on a commencé à voir s'amorcer dans ce sens, dans ce pays, c'est porteur de l'avenir. L'autre point que la libre pensée met en avant, c'est une proposition, une réflexion, qui est la suivante, excusez-moi. La libre pensée, estime qu'il faut en finir avec ce gouvernement. Il faut se donner cet objectif de les mettre hors d'état de nuire. Et donc, une des propositions que nous faisons, c'est de travailler à une constituante libre et souveraine, une assemblée constituante élue par le peuple et qui gouverne pour le peuple, par le peuple et dans l'intérêt du peuple. Voilà, c'est un peu l'intervention que je voulais faire sur cette question du combat et des manifestations pour l'abrogation de la loi asile-immigration. Comme je vois que j'ai presque plus de temps, je vais quand même rajouter une petite chose qui est la suivante. J'ai vu dans les différents journaux, parce que j'ai de saines lectures, notamment le journal La Croix, qui est le journal de l'Église catholique, qui a un grand débat qui traverse l'Église en ce moment sur la bénédiction des couples homosexuels. Alors attention, la bénédiction des couples homosexuels, ce n'est pas un mariage religieux, puisque l'Église catholique refuse absolument de marier les couples qui ne seraient pas des couples classiques. Mais il s'agit d'une bénédiction. Alors le pape a dit qu'il était pour, mais qu'il fallait que ça se fasse dans la discrétion et l'humilité. Et il y a toute une série des pans très très importants, des évêques, des cardinaux, des églises, notamment dans les pays africains, mais pas seulement, qui se sont insurgés, qu'il y a un grand mouvement de fronde contre la bénédiction des couples homosexuels. Et on va dire qu'il y a des remous violents dans l'église. Et comme nous, on est dans les Bouches-du-Rhône, je rappelle à tout le monde qu'on bénit les navettes à Marseille. À Aix-en-Provence, ils bénissent les calissons. On a vu un prêtre, là, j'ai vu ça à la télé, quand les tracteurs, les agriculteurs redescendaient vers le sud-ouest, qui était au bord de la route et qui bénissait les tracteurs. Je ne sais pas s'il a demandé d'ailleurs aux gens qui conduisaient les tracteurs leur autorisation, mais on bénit les skis, on bénit, etc. Et à Airague, c'est un charmant village provençal dans les Bouches-du-Rhône, il y a quelques jours de ça, il y a à peu près une semaine, 10 jours, ils ont béni les saucisses. Voilà qui, ces petits éléments, apportent un éclairage, à mon avis, implacable sur cette affaire des bénédictions.
Voilà, donc... au travers de ce qui a été dit, vous comprendrez pourquoi vous avez pu voir les drapeaux de la libre pensée dans les manifestations qui ont eu lieu contre la loi immigration. Je ne sais pas si on a le temps de passer cette chanson qui s'appelle Le Portugais.
Non.
Bon, eh bien,
j'ai été trop long, désolé.
Ce n'est pas grave. Simplement, je vous signalerai que l'Observatoire économique et social de la libre pensée à des cahiers, et en particulier les cahiers 6 et 7 traitent de ce que Daniel Shapira nous a exposé. Chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, nous vous saluons et nous vous disons, ni Dieu ni maître, à bas la calotte, vive la sociale et au mois prochain.
Alors je rappelle quand même, avant de conclure, en conclusion quand même, que nous avons toutes nos brochures et le site internet dans lequel vous trouverez cette émission qui vient d'être enregistrée. Et je vous appelle donc à la réécouter ou à bien lire nos revues qui se trouveraient sur ce fameux site. Au revoir.
Avec son marteau piqueur, il creuse le sillon de la route de demain. Il y met du cœur, le soleil et le gel sont écrits sur ses mains. Dans son village, qu'on peut gagner son pain, loin de son toit, de sa ville, à 500 000 vers le nord. Le soir dans un bidonville, le Portugais s'endort. Il est arrivé à la gare d'Austerlitz, voilà 2 ans déjà. Il n'a qu'une idée, gagner beaucoup.